Agir pour les zones humides, c'est agir pour l'humanité et la nature. C'est le thème cette année de la Journée mondiale des zones humides. Et avec nous pour en parler, Katia Lynn Fortunescence, référente pôle biodiversité et gestion de l'espace au parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée, à Dicias. Katia Lynn. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet concernant les zones humides, je vais vous demander de vous présenter auprès de nos auditeurs et de nous parler de votre métier au sein du parc référente pôle biodiversité et gestion de l'espace. Qu'est-ce que ça veut dire ?
En fait, je suis responsable du service qui s'occupe de gestion d'espaces naturels, de questions de biodiversité, de préservation de la biodiversité, mais aussi d'agriculture et de valorisation des produits du territoire. Donc, je chapeaute une petite équipe de gens super motivés qui travaillent au quotidien pour mettre en œuvre des actions très concrètes de protection de la nature ou d'accompagnement des agriculteurs vers des pratiques plus vertueuses, ou même d'aide à l'installation d'éleveurs pour aider à ouvrir les milieux, par exemple.
Vous qui travaillez au sein du parc de la Narbonnaise, en ce moment, quel est le diagnostic santé du parc ? Comment se porte le territoire ? Et puis, quelles ont été les évolutions depuis quelques années ? On le sait, rien n'est permanent, tout change. Et concernant la faune et la flore et leur environnement, leur écosystème, qu'est-ce qui a évolué au sein de cette zone ?
En fait, effectivement, tout change. Et en fait, tout change depuis toujours. Le territoire de la Narbonnaise, c'est un territoire littoral. Et si on remonte dans le temps, par exemple, à l'époque des Romains, les étangs qu'on connaît, les étangs du Narbonnais, étaient un grand golfe. La mer entrait jusqu'à Narbonne. Mmh. Bon, voilà, avec l'évolution, l'histoire, l'évolution géologique, on est sur un territoire qui bouge tout le temps, mais dans un temps un peu long. Et donc, du coup, à taille de vie humaine, on ne s'en rend pas forcément compte. On a toujours l'impression que c'est figé. Or, la nature est tout sauf figée. La nature est en constante évolution en permanence. Elle est en constante adaptation en permanence. Ce qui change là depuis quelques années, effectivement, et qui est un peu différent, c'est que sous l'effet des changements climatiques, on a des évolutions qui sont rapides. Alors, c'est très évidemment qu'on a du mal à le percevoir, nous, avec nos yeux, parce que c'est des changements qui sont quand même relativement lents. Quoique, maintenant, même les agriculteurs en particulier, qui sont en première loge, voient bien que les évolutions climatiques, c'est-à-dire les sécheresses, les événements dramatiques, les inondations, les gels tardifs, ça, c'est des choses qui sont perçues maintenant par les gens du territoire comme les témoins du changement climatique. Et un autre qu'on a du mal à voir à l'œil nu, mais qu'on peut mesurer, c'est aussi l'élévation du niveau de la mer, quelque chose de mondial, mais qu'on arrive à percevoir aujourd'hui par des petites choses qui sont difficilement perceptibles à l'œil nu, mais qui sont mesurables avec des appareils, notamment le trait de côte. Donc effectivement, la mer Méditerranée monte. Ce qui change aussi, c'est que avec l'évolution des températures dans l'eau, dans la mer,
oui.
On a des espèces, les pêcheurs de plus en plus nous parlent d'orades coryphènes, de poissons qui sont qui sont relevés dans les filets. Au début, c'est très anecdotique, et puis plus ça lève, moins c'est anecdotique. Voilà, des poissons qui sont des poissons normalement de mer chaude, quoi. Donc ça, ce sont des choses qui témoignent de changements qu'on a du mal à voir avec nos yeux, mais qu'on peut mesurer avec d'autres choses. Donc, d'accord. Ça, c'est des changements.
C'est vrai que le réchauffement climatique, on en entend parler partout, on est en plein dedans. C'est un processus complexe, en cours, et qui commence à nous dépasser. On l'a vu dernièrement avec le rapport du GIEC. Quelles vont être les difficultés dans la zone du parc et comment faire ?
Alors, le parc a piloté depuis 2018 un programme qui s'appelle La Mer Monte, dont le titre dit bien le sujet. Et l'idée, c'était vraiment de comprendre un petit peu comment la mer va monter, à quelle vitesse, qu'est-ce que ça implique sur le territoire. Comme on est sur un territoire avec de grandes zones lagunaires, si le niveau de la mer monte, le niveau des lagunes va monter aussi. Donc, l'idée, c'était d'essayer de comprendre comment et qu'est-ce que ça implique, et notamment aussi au niveau de l'invisible, c'est-à-dire si la mer monte, si du coup les niveaux vont être plus hauts aussi dans les terres, ça va peut-être influencer les nappes. Donc, si les nappes sont salées, ben du coup on va avoir des sols qui vont être salés. Ça peut influencer l'eau potable. Voilà, des choses qui sont un peu invisibles. Donc ça, c'est dont on a des études qu'on a lancées, dont on n'a pas encore tous les résultats. Donc c'est un peu tôt pour dire exactement ce qui va changer. Ce qu'on pressent, c'est qu'effectivement, bon ben, ces niveaux d'eau vont monter, donc du coup ça va saliniser un petit peu les milieux littoraux qui vont reculer. Et ce qui veut dire que il faudra aussi que les activités humaines s'adaptent, soit à éventuellement recul, soit qu'on imagine d'autres activités humaines qui peuvent exploiter ces milieux-là aussi. C'est pour ça que dans le jargon un peu technocratique, on parle d'adaptation avec de la recomposition spatiale. Avant, on parlait que de recul. Mais en fait, finalement, on peut imaginer, il faut arriver à se dire qu'après tout, sur ce territoire qui a toujours été en permanence en changement, on est sur un changement là encore, qui est rapide, certes, mais l'homme a toujours réussi à s'adapter à ces changements. Plutôt que de se dire, oh mon Dieu, de paniquer, il faut essayer de comprendre quels vont être ces changements pour voir comment on peut s'adapter à ces changements et inventer éventuellement une autre manière de vivre dans ce territoire qui aura évolué.
D'accord, on va devoir s'adapter, on va devoir bouger en même temps que l'environnement change, c'est ce que vous nous dites.
Oui, plutôt que de lutter contre quelque chose qui est en train d'arriver quoi qu'il arrive, autant accepter ces changements et voir comment on peut s'y adapter avec des techniques ou avec d'autres types d'usages.
D'accord.
Donc, il faut inventer collectivement parce que personne ne va venir dicter une solution. Il faut que ce soit quelque chose qui soit discuté avec les acteurs locaux, avec les élus, avec les populations, parce qu'ensemble, on est forcément plus intelligent.
Est-ce qu'il y a eu déjà des réflexions à propos je sais pas, des métiers de demain, comment ça s'est passé à ce niveau-là?
On n'en est pas encore là. Là, on a dans le programme La Mer Monte, on a créé des outils de médiation justement pour pouvoir parler de ce qui est en train d'arriver sans alarmer outre mesure, c'est-à-dire sans faire peur. C'est-à-dire, l'idée, c'est de faire en sorte que nos élus, que les habitants, que les acteurs locaux prennent conscience de ce qui est en train de se passer, sans pour autant qu'ils le prennent comme quelque chose qui est une fatalité horrible, mais au contraire comme quelque chose qui est certes en train d'arriver, auquel il faut qu'on réfléchisse ensemble pour voir qu'est-ce qu'on peut inventer effectivement demain. Voilà, il faut faire preuve d'imagination, ça c'est sûr. Et aussi, on est quand même dans une époque où on a des techniques. On peut imaginer, par exemple, pour les problèmes de ressources en eau, de réutiliser les eaux usées. Voilà, il y a des choses que la technique peut nous permettre d'inventer aujourd'hui, quoi.
D'accord. Kathleen, le parc naturel de la Narbonnaise, c'est une vaste zone, hein, de 70 000 hectares entre terre et mer. En termes de paysage, c'est très varié. On y retrouve des massifs, de la garrigue, des vignes et bien sûr des paysages faits d'eau, donc des étangs, la mer, les lagunes. C'est donc, j'imagine, tout naturellement que vous œuvrez en faveur des zones humides, hein, tout au long de l'année, puisque l'eau est un élément primordial, central au sein du territoire du parc. D'ailleurs, à l'origine, le parc a été créé en priorité pour la préservation des lagunes. Est-ce qu'on peut en savoir plus à ce sujet?
Effectivement, les lagunes côtières constituent le cœur du territoire du parc naturel régional, mais pas que. En fait, ce qui fait la caractéristique de la Narbonnaise et qui est unique en France, c'est cette proximité des milieux très humides, voire aquatiques, avec les milieux secs, avec ce contraste entre l'horizontalité, j'allais dire, des milieux humides, avec la verticalité des falaises, des îles. Voilà, on est un des rares territoires où, au milieu des étangs, on a des îles. L'île de l'Hôte, par exemple, qui culmine à 54 mètres d'altitude au milieu de l'étang de Bastigeance, ça, c'est quelque chose qui est complètement unique. Et c'est aussi cette grande diversité de milieux humides, puisqu'on a des milieux humides salés, des milieux humides d'eau douce, qui sont tous imbriqués de manière très, très mosaïque, j'allais dire, les uns dans les autres, avec les milieux secs, les falaises. C'est ce qui produit des paysages absolument spectaculaires. Et c'est ça le joyau de la Narbonnaise, ce sont ces paysages-là.
Et il se trouve que...
Oui.
Il se trouve que ce sont des territoires tellement uniques que en 2006, on a été labellisé zone humide d'importance internationale au titre de la convention de Ramsar. Donc c'est vraiment maintenant une reconnaissance internationale de la valeur de ces zones humides et aquatiques, pas que pour l'aspect paysager, mais aussi parce qu'elles accueillent un très très grand nombre d'espèces, de poissons, d'oiseaux, des chauves-souris aussi, un très grand nombre de milieux, dont voilà des espèces et des milieux qui sont vraiment rares à l'échelle européenne et internationale, mais aussi parce que il y a sur ces milieux humides des activités humaines qui sont en équilibre avec les écosystèmes, notamment la pêche lagunaire, notamment certaines formes de pastoralisme en milieu humide. Et c'est ce tout-là, cet éco-humano-système, j'allais dire, c'est éco-socio-système, qui est d'une grande richesse et qui constitue un patrimoine. Et c'est à ce titre-là qu'on a été labellisé zone humide d'importance internationale.
Et c'est donc pour préserver tout ça que le parc, à l'origine, a été créé, si je comprends bien.
Oui, tout à fait. C'était une volonté du territoire de la Narbonnaise que d'essayer d'obtenir ce label de parc naturel régional. C'est vraiment un système, une demande ascendante et qui a été labellisé pour la première fois en 2003.
Cataline, c'est l'heure de se faire une petite pause musicale et puis on revient de suite après pour continuer de discuter.
Where are you going now? Where do you want to hide your heavy loaded heart? Torn apart, nothing's moving now. Nothing shines, you're looking for the next way out. If you expect to grow your life on different grounds, don't waste your time, don't look back again. In the rain, you will wash your soul in your pain. If you plan your great escape, follow you no matter what, babe. We'll find a place to hide, to live and die.
Retour sur le plateau de Radio Lingodoc avec Cataline Fortunescence, référente pôle biodiversité et gestion de l'espace au parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée. Alors, Cataline, juste avant la pause musicale, on parlait comment le parc a été créé à l'origine pour préserver les milieux marins. Quelles ont été les actions du parc en faveur de la préservation des lagunes ou d'autres zones humides du parc ?
On a une multitude d'actions en faveur de la préservation des zones humides. La première, c'est de travailler en concertation avec les acteurs locaux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent ou qui utilisent ces zones humides. Les pêcheurs, les chasseurs au gibier d'eau, les usagers de kitesurf, planche à voile, etc. Donc, le premier travail du parc, c'est de concerter avec l'ensemble de ces personnes-là, parce que, un, ça permet de leur faire prendre conscience de l'énorme richesse que constituent ces lagunes et qui est la leur. C'est d'abord le patrimoine des habitants de ce territoire. Et ensuite, chacun peut du coup mettre la main à la pâte, j'allais dire, pour œuvrer dans le sens de la préservation de cette biodiversité. Ça va être par exemple la création d'un zonage nautique sur l'étang de la Palme, avec qui était un zonage qui a été créé et porté par la commune de la Palme, mais en concertation avec les usagers de ce site, pour arriver à faire en sorte que sur cette lagune, on n'ait plus de conflit d'usage entre d'une part les gens qui pratiquaient des sports nautiques avec les pêcheurs ou avec les chasseurs, mais aussi qu'on crée des zones de quiétude pour les oiseaux. Donc on est vraiment dans quelque chose qui a but de préserver à la fois la biodiversité et de concilier les usages entre eux, par exemple.
D'accord.
Un autre exemple, ça va être de travailler avec des chasseurs de gibier d'eau pour restaurer des marais humides qui, parce qu'ils avaient été avec le temps déconnectés des réseaux hydrauliques qui les alimentent et de la lagune dont ils sont proches, c'était un petit peu appauvri. Donc, dans le secteur du Castellou et maintenant dans le secteur de Campignolles sur la commune de Gruissant, ce sont les chasseurs qui portent des travaux de restauration d'un marais qui est non chassé, d'ailleurs, je précise, dans le cadre d'un contrat Natura 2000, donc financé par l'Europe et par l'État, pour la préservation de ces marais, pour la diversité, pour les oiseaux qui pourront venir faire halte, par exemple. On a un autre type d'action, c'est en lien avec les propriétés du Conservatoire du Littoral, qui est propriétaire de plus de 4000 hectares de milieux littoraux, en principalement des milieux humides. Et là, le parc est souvent gestionnaire en co-gestion avec la commune concernée. Donc, ça, c'est Fleury, c'est Narbonne, c'est Périllac, c'est Sigean. Et il y a aussi la réserve naturelle régionale de Sainte-Lucie. Le parc est gestionnaire de cet espace. Et là, le parc œuvre en direct à la restauration de réseaux hydrauliques, d'ouvrages hydrauliques pour pouvoir mettre en eau les zones humides à la bonne période de l'année et ainsi optimiser complètement la diversité des espèces qui peuvent s'y exprimer à la fois au niveau végétal, avec pas mal d'espèces végétales protégées, notamment des saladelles, mais aussi optimiser pour les oiseaux d'eau. Le parc est même allé jusqu'à recréer des îlots pour la reproduction de certaines espèces d'oiseaux, notamment les sternes, les avocettes ou certaines espèces de mouettes ou de goélands. En recréant des îlots pour que ces espèces viennent nicher, parce qu'elles nichent au sol sur des îlots. Elles sont ainsi protégées de la prédation terrestre. Donc, on est jusqu'à aller aménager certains espaces pour la reproduction des oiseaux.
Super. Là, on va faire un petit focus sur la journée mondiale des zones humides, vos actions à cette occasion. Mais déjà, d'où ça vient, cette journée ?
Alors, c'est une journée qui émane de cette fameuse convention internationale pour la protection des zones humides qui a été signée en 1975 à Ramsar, en Iran. Justement, devant le constat mondial que les zones humides continuent de régresser malgré les nombreux services qu'elles rendent gratuitement à nos activités humaines et à nos populations, notamment en épuration de l'eau, en effet tampon lors des inondations. En fait, les zones humides jouent un rôle d'éponge. C'est-à-dire quand il y a trop d'eau, elles absorbent l'eau et quand il n'y en a plus assez, elles relarguent de l'eau dans l'hydrosystème. Ce sont aussi des zones qui peuvent vraiment atténuer l'effet de tempêtes marines. Voilà, donc on a beaucoup, beaucoup de services rendus dont on n'a pas toujours conscience.
Oui.
Malgré ça, les zones humides dans le monde, et même en France, régressent de manière vraiment importante. Et avec elles, l'ensemble des services rendus, mais aussi l'ensemble de la biodiversité qui est complètement inféodée à ces zones humides-là. Donc, cette journée mondiale, elle a été rendue nécessaire pour qu'on puisse parler de ces zones humides et de la richesse qu'elles représentent.
Vous nous disiez, Kathaline, les zones humides dans le monde régressent. J'imagine qu'elles régressent en grande partie à cause du réchauffement climatique. Il y a peut-être aussi d'autres raisons.
Elles ont commencé à régresser avant qu'on commence à mesurer les effets du changement climatique. Elles régressent beaucoup du fait des activités humaines, parce que elles ont été depuis très longtemps, depuis des siècles, drainées parfois pour l'agriculture. Mmh. Aujourd'hui, elles sont parfois encore détruites pour des raisons d'artificialisation, de construction, d'urbanisation. Après, un autre cas de figure, c'est quand elles sont pas directement détruites, mais quand leur fonctionnement est si perturbé qu'elles finissent par régresser parce que on a détourné l'eau qui y arrivait et pour l'utiliser à d'autres fins, et que du coup, sans eau, il n'y a plus de zone humide, a fortiori. Enfin, donc, c'est une multitude de raisons qui sont quand même, il faut le dire, encore souvent d'origine humaine.
C'est l'homme. Donc, à l'occasion, pour préserver justement ces zones humides, vous nous disiez qu'il y a eu un partenariat avec les cinémas du territoire, donc les cinémas des Corbières-Sigean, le CGR Narbonne et le théâtre plus cinéma scène nationale, ont été organisés des ciné-débats. La plupart des films sont passés. Il en reste encore un, il me semble, la ligne de partage des eaux.
Il y a Cinéma aussi qui est partenaire de ces projections avec nous.
D'accord. Justement, comment se sont passés les débats ? Qu'est-ce qui est ressorti ?
Beaucoup de questions. Alors, cette année, les films qu'on a projetés parlaient beaucoup d'eau, de ressources en eau. Mmh. Alors, il y a une scène qu'on a été obligé de reporter parce qu'elle était prévue le jour où il y a eu la tempête de vent.
Ah oui.
Donc elle est reportée au 29 mars au CGR à Narbonne.
D'accord.
Ça sera la ligne de partage des eaux, donc il sera encore possible d'aller voir ce film et d'assister au débat ensuite. Et le film qui a été projeté au cinéma à Sigean, c'était La soif du monde, un film de Yann Arthus-Bertrand. Ils ont beaucoup parlé sur des questions d'eau et de ressources en eau, évidemment, parce que c'était le sujet du film, avec des personnes dans la salle qui sont très très volontaire de pouvoir mieux faire et qui beaucoup d'interrogations sur comment on peut faire nous ici en Narbonnaise, alors que on est sur des thématiques qui sont assez éloignées de ce qui pouvait être montré dans le film, puisque c'est un film où on a beaucoup voyagé. La question, c'était comment nous, alors qu'on a l'eau facilement en ouvrant le robinet, comment on pourrait être plus vertueux que ce que nous sommes. Donc c'était l'occasion de parler de comment on consomme. Parce que ce que montrait ce film, c'était que, par exemple, pour fabriquer un jean, il faut 150 000 litres d'eau.
Oui.
Comment on consomme et comment on peut participer aux économies d'eau dans le monde, et comment aussi on consomme en Narbonnaise, comment on peut faire des économies. Voilà, c'était beaucoup une interrogation sur nos modes de vie.
Des interrogations, des inquiétudes, j'imagine. Y a-t-il eu aussi peut-être des idées porteuses, des solutions proposées de la part du public ?
C'est vrai, quelques inquiétudes, mais du coup, on a pu, même si on n'a pas réponse à tout, hein, c'est évident, valoriser que ces inquiétudes, elles sont déjà partagées depuis un moment par les institutions audoises, et que du coup, il y a déjà des réflexions qui sont en place, qui n'ont pas forcément complètement abouti, mais il faut savoir, c'est le genre de sujet qu'on a pu traiter l'autre soir, que on est sur un secteur dans l'Aude où on a un déficit hydrique qui est important, qui était de 37 millions de mètres cubes chaque année sur le bassin versant de l'Aude, et que grâce au plan de gestion de ressources en eau qui a été décrété par les instances de l'État, les collectivités, etc., on a déjà réussi à réduire de moitié ces problèmes de déficit grâce à des travaux importants qui ont été menés notamment par le monde agricole. Donc il y a des choses qui sont mises en place, même si effectivement ça, c'est un combat quotidien et qui doit être porté par tous, et qu'il faut continuer parce qu'il reste encore l'autre moitié à arriver à réduire.
Kathaline, on arrive à la fin de l'interview. Pour suivre vos actualités, vos actions, pour soutenir le parc, où peut-on se rendre ? Comment on fait ?
Il y a déjà le site internet du parc qui est mis à jour régulièrement avec beaucoup beaucoup d'infos. Donc, en fonction des thématiques qui intéressent les gens, on peut trouver beaucoup de choses sur le site internet. Après, il y a les réseaux sociaux, hein, puisque on est présent sur Facebook, Instagram. Donc, n'hésitez pas si vous voulez avoir des infos en temps réel à aller sur les réseaux sociaux. Et après, in vivo, il faut venir sur les sites. Que nous animons, donc ça va être dans l'ensemble des communes, l'ensemble des 22 communes de ce très beau territoire, ou sur les sites qui sont ouverts au public, la réserve naturelle de Sainte-Lucie, les sites de Sigean, de Périllac, l'Oustalet, l'Œil Doux, le massif de Fontfroide, voilà, il faut découvrir le territoire aussi par tous les aspects.
Eh bien, Katialine Fortuné-Sens, merci beaucoup de nous avoir donné de votre temps.
Merci.
Très bonne continuation. Adicias.
Adicias.